Beaucoup de mon ministère sacerdotal me conduit à accompagner des jeunes couples dans leur discernement vers le mariage ou pas. Est-ce qu'ils sont, comme on dit, faits l'un pour l'autre, même si je crois qu'on se fait plus l'un à l'autre qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais durant cette étape, j'aime bien leur proposer de vivre l'Isaac du cœur. Qu'est-ce que c'est, l'Isaac du cœur? Ignace de Loyola, dans les conseils qu'il donne lors des exercices pour discerner qu'est-ce que le Seigneur désire, il invite les uns et les autres à vivre cet Isaac du cœur. C'est quoi? C'est se remettre face au Seigneur et remettre au Seigneur ce que l'on aime le plus, ce à quoi nous sommes le plus attachés, pour arriver à ce qu'il appelle, et il faut bien comprendre les mots, une sainte indifférence. Les mots sont piégés, il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être comme de l'argile entre les mains du potier, et dans la prière, remettre au Seigneur ce à quoi nous tenons le plus, de façon à ce que, quel que soit ce qui émerge ensuite dans la prière, eh bien, on puisse vraiment dire, Seigneur, je t'ai tout remis et j'ai vraiment voulu discerner ce qui était le meilleur sous ton regard. C'est important de vivre l'Isaac du cœur et du coup, je les invite. Alors, c'est un peu exigeant, c'est vrai, surtout pour les jeunes couples, etc., surtout aujourd'hui, à l'heure du tout de suite. Je les invite à, pendant 15 jours, ne pas avoir entre eux ni de son ni d'image, de couper tout lien, et s'ils sont en vie commune, de trouver un ami chez qui squatter ces 2 semaines, et de vivre vraiment, vraiment cette coupure intérieure pour repartir, si tel est ce qu'ils ont discerné dans leur temps de prière, avec l'autre, ou peut-être de rompre leur relation parce qu'ils estiment que ce n'est pas ce qu'ils ont discerné dans la prière, dans leur fort intérieur. Je trouve ça beau que, au fond, dans cette démarche d'Isaac du cœur, qui fait, comme vous l'avez noté vous-même, référence au sacrifice d'Isaac, ce à quoi Abraham tient le plus, le fils de la promesse, et Jésus et Dieu de façon complètement étonnante demande à Abraham d'offrir en sacrifice, mais retient son bras, ce qui veut bien dire la différence entre le Dieu de l'Alliance et les dieux et les autres dieux qui entouraient cet embryon du peuple de l'Alliance, qui, autre dieu, demandait parfois des sacrifices humains. Eh bien, là, Abraham a été retenu. Mais il est allé comme jusqu'au bout de cette demande. Ce fils improbable, ce fils dans ta vieillesse que tu as reçu, tu l'offres, tu le remets pour pouvoir le recevoir au centuple. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et je trouve ça beau d'avoir dans ce dimanche de la transfiguration cette lecture du sacrifice d'Isaac. Parce que, quelque part, pour voir le Seigneur, un peu comme les jeunes couples dont je vous ai parlé, pour voir le Seigneur, ça demande de se détacher intérieurement de ses sentiments, de ses affections, de ses émotions, de ce qui nous paraît indispensable, de ce qui nous paraît incontournable. Comme un peu les apôtres qui étaient là et qui, le trio de choc, si j'ose dire, hein, qui est là et qui entoure Jésus, hein, Pierre, Jacques et Jean, qui ont participé à un certain nombre de miracles seuls. Ils ont vu Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Ils ont vu ce qui était le plus important à leurs yeux. Et puis à un moment donné, ça a disparu. Ils ne voient que Jésus seul. Et ils voulaient mettre la main sur ce moment unique. Moïse et Élie, tout ce qu'ils avaient appris dans leur enfance, tout ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient lu. Ils ont lu la Torah, évidemment. Ils ont médité ça jour et nuit. Ça a bercé toute leur formation spirituelle. Il a fallu qu'ils abandonnent Moïse et Élie pour ne voir que Jésus seul. Eh bien, mes amis, je trouve que pour nous, il est là une leçon spirituelle considérable. Une leçon spirituelle considérable parce que, justement, et ce n'est pas pour rien que l'on a ce thème de la transfiguration, on fêtera la transfiguration dans un autre cadre, le 6 août, mais ce n'est pas le cadre du carême. Et c'est toujours intéressant de voir comment les lectures sont éclairées par le temps liturgique dans lequel nous sommes plongés. Si l'on a ce texte de la Transfiguration, le deuxième dimanche du carême, c'est précisément parce que le carême fait de nous des chercheurs de Dieu, nous met en chemin, nous invite à nous alléger, à mettre de côté ce qui nous paraît peut-être le plus, ce qui est incontournable, où on trépigne un peu de façon capricieuse souvent, et des choses bonnes, parce que le discernement, ce n'est pas entre le bien et le mal, le discernement, c'est entre le bien et le bien. Et c'est ce qui est plus difficile. Et donc, de se détacher de ça, et intérieurement, dans la prière, de se remettre comme l'argile dans les mains du potier. Et alors là, seulement, progressivement, apparaît le visage de Jésus. Je veux dire quoi ? C'est apparaît comme une clarté, apparaît comme un chemin. Au sein même de notre humanité, c'est le côté très moderne d'Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, de dire que dans notre conscience, c'est aussi ce tabernacle où Dieu parle. Eh bien, je trouve que c'est beau que nous ayons ce temps de méditation autour de la transfiguration parce que, précisément, on est parfois très attaché à avoir des consolations, par exemple, dans la prière, ressentir quelque chose. Et notre vocation comme communauté religieuse nous invite beaucoup à travailler avec les jeunes et on voit bien que le monde des jeunes est très attaché au sensible, à l'affectif, à l'émotionnel. Bon, ça peut être un début. Mais dans la progression spirituelle, on ne peut pas passer à côté de l'étape de la transfiguration. C'est-à-dire ce qui nous est familier, Moïse et Élie pour les apôtres, ce qui nous est familier, à un moment donné, nous est enlevé. Ou nous l'offrons pour découvrir le visage de Jésus. Et le visage de Jésus crucifié, puisque vous l'avez bien entendu, il dit à la fin, Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire soit crucifié, soit mort et ressuscité. Quelque part, c'est là seul que apparaît le visage du Christ. Et c'est vrai que les moments de consolation, les moments où on a eu des grâces, bien sûr que ça existe et vivons-les à plein. Mais ils sont ordonnés à ce qu'un jour on puisse contempler le Seigneur crucifié et resplendissant dans la gloire. Qu'on puisse voir son visage d'une autre manière, qui ne nous est pas familière, voire qui nous rebute, mais c'est bien le visage de Jésus resplendissant, qui vient à notre rencontre. Comme ça nous fait du bien d'écouter cette parole, comme ça nous fait du bien de voir le témoignage de foi qu'a donné Abraham. Et comme nous-mêmes, nous sommes aussi invités au cœur de ce carême à vivre ce dépouillement intérieur. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, évidemment le face-à-face dans l'autre vie, mais déjà dès maintenant, certains renoncements, et renoncer c'est déjà mourir un peu. Donc on voit bien que on est appelé par Jésus à un chemin, et particulièrement dans le carême, et c'est le sens aussi des efforts que l'on peut avoir consentis pour laisser de côté des plaisirs passagers, etc., qui ne sont pas indispensables, mais qui parfois peut aussi nous surcharger dans le chemin. Et donc, on va renouveler la prière gratuite. On va renouveler l'aumône, le soutien matériel aux plus nécessiteux. On va renouveler aussi une certaine purification des plaisirs immédiats qu'offre notre corps. Ces plaisirs-là ne sont ni bons ni mauvais, ils sont donnés par Dieu, parce que dans notre corps, nous sommes aussi à l'image de Dieu. Mais tout ça, on veut quelque part le laisser de côté pour qu'apparaisse en filigrane dans notre vie le visage de Jésus. Oui. Et ça, c'est toute une expérience spirituelle. L'expérience de l'Isaac du cœur que je vous invite à faire. Pas de son, pas d'image. C'est vrai entre jeunes couples, mais bon, une fois marié, c'est peut-être plus compliqué à vivre parce que le discernement est censé être fait, mais il y a d'autres sons et d'autres images qui parfois nous polluent, on le sait bien, et combien nous sommes sollicités par un monde hyper connecté, par des sons et des images qui ne nous apportent pas grand-chose. Ça peut être le moyen, le temps aussi d'offrir ça pour se recentrer dans la prière, se recentrer dans le travail spirituel, remettre au Seigneur notre vie, lui demander, le supplier de manifester son visage, qu'il se montre à nous. C'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Amen.